c'est Canal Sud, c'est 92.2 et c'est le magazine. Vous êtes sur le 92.2 de Canal Sud, nous sommes le 6 décembre 2019, la grève est reconduite et Radio Grève aussi. Et bonjour à toutes.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Donc on est aujourd'hui ensemble pour 2 heures sur le créneau du magazine qui normalement est fait par Marie-Madeleine qui aujourd'hui n'est pas là, grosse pensée. Et puis l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un point sur d'abord le procès qui a lieu aujourd'hui contre Odile Morin au tribunal de Toulouse.
À 14h, ouais, tout à fait. Ouais.
Et pour lequel elle appelle à un rassemblement.
Et également un peu de reparler de ce qui a agité la journée d'hier, c'est-à-dire cette grève dont les chiffres les plus fantastiques sont sortis, et de parler de ce qui est à venir aussi, sans oublier que l'antenne est ouverte pour toute personne qui voudrait intervenir pour revenir un petit peu sur la grève d'hier ou sur les blocages à venir.
On va essayer d'appeler un petit peu les copains, copines qui étaient aux AG hier, qui ont participé à la manif, revenir un peu sur ce qui s'est passé à la manif et puis sur les suites qui vont être données au mouvement aussi, parce qu'il y a plein de grèves qui sont reconduites, et faire un petit tour aussi sur ce qui s'est passé en France ailleurs hier, et sur où est-ce que la grève a été reconduite, qu'est-ce qui se passe un peu, qu'est-ce qui nous agite.
Et du coup, si vous-même vous voulez appeler parce que vous avez participé à des AG ou à la manif ou ce genre de choses et que vous voulez témoigner de tout ça, vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95 et on vous passera à l'antenne ou pas, selon votre bon désir.
Et puis aujourd'hui à 14h, il y a de nouveau une manifestation d'appelés, c'est à Saint-Cyprien. Si vous êtes en route, si vous êtes déjà sur place, n'hésitez pas aussi à appeler pour donner un peu l'ambiance, le nombre de gens sur place, etc.
N'hésitez pas non plus à consulter le site IATA pour des infos plus précises. Il y aura un suivi aujourd'hui aussi de ce qui va se passer toute la journée à Toulouse.
Et donc pour les personnes qui n'ont pas notre numéro... C'est le 05
61 53 36 95.
Voilà, et puis on commence, si personne d'autre ne veut ajouter quelque chose, on commence par une interview de Odile Morin qui a été faite il y a quelques temps, peut-être Sol, tu peux
oui, en parler. Oui. Ben, c'est une interview qui dure un peu longtemps, mais déjà je voulais dire que... Donc hier, il y a eu combien d'arrestations? On a eu les chiffres
Ouais, alors hier, déjà on a eu, selon les flics, il y avait 33 000 personnes dans les rues de Toulouse en train de défiler. Selon la CGT, il y avait 5 000, donc je pense qu'on peut additionner les deux et diviser par deux, on arrive à 65 000, 70 000, ce qui devait être à peu près le cas.
Il y a des gens qui ont fait des calculs en fonction de la longueur du pont, qui ont fait des maths en fait, en calculant la densité de gens qu'il y a sur le pont, qui sont arrivés à des chiffres à 100 000 personnes sur le pont des Catalans. Enfin,
d'accord.
C'était assez rigolo sur les groupes Telegram, ouais. Mais peut-être pas 100 000 personnes non plus, quoi.
Ouais, peut-être pas. Enfin, je sais pas.
Oui,
après,
il y avait du monde.
Il y avait du monde, ça.
On s'est posé la question de la portance du pont des Catalans ou pas? Est-ce qu'il peut porter 100 000 personnes?
Je sais pas, ça c'est peut-être effectivement une question de mathématiques ou alors je sais pas, je peux pas te dire. En tout cas, il y avait du monde, il y avait pas du monde, il y avait du monde et aussi pas qu'à Toulouse, il y avait du monde dans les environs. Juste pour donner, ça c'est les préfectures qui ont donné ces chiffres-là, donc 33 000 à Toulouse, ils parlent de 25 000 à Marseille, alors qu'à Marseille on parle de 150 000 personnes. Enfin bon, voilà, on voit qu'il y a un écart chaque fois assez fantastique. d'aller entre les chiffres donnés par les syndicats et les chiffres donnés par la police dans chaque ville. Et sinon, pour parler de la région, il y avait entre 4000 et 8000 personnes à Foix. Il y avait plus de 3000 Gersois qui se sont rassemblés à Auch, alors qu'il y en avait beaucoup qui étaient venus sur Toulouse. Il y avait du monde à Cahors, il y avait du monde dans le Tarn. En fait, il y a eu du monde partout, quoi, hier. Alors qu'on pensait que c'était une manif régionale, en fait, pas du tout, quoi. C'est parti un peu dans toutes les villes des alentours. Ça a battu le pavé.
Et peut-être on reviendra plus en détail sur tout ça après le son de l'interview de Odile Morin.
Oui, c'est juste que je voulais un petit peu introduire sur, ouais. Pour demander les chiffres des arrestations d'hier, notamment pas les chiffres...
22-23, ouais.
C'est ça. Et c'était juste pour dire qu'il y a eu 23 arrestations, mais que du coup, depuis un an à Toulouse, il y a eu plus de 80 peines de prison ferme, en fait, juste dans le mouvement social des Gilets jaunes. Je dis ça parce qu'en fait, l'enregistrement qu'on va écouter là, il parle un peu d'une histoire particulière d'une Gilet jaune, militante du droit associatif pour les personnes en situation de handicap, qui a décidé de se battre en justice. Contre ces accusations de la police. Rappeler que le bilan d'une année de mouvement social des Gilets jaunes, c'est en France, selon les chiffres du Monde, plus de 10 000 gardes à vue, dont 3100 condamnations. Alors c'est vrai que là, ça fait bizarre d'accumuler un petit peu des chiffres comme ça, mais c'est quand même... ça reflète aussi une répression à grande échelle, en fait. Une stratégie du gouvernement. Voilà, du coup, on peut écouter, si on a le son, l'histoire d'Odile Morin.
On a le son, c'est parti.
Alors, je m'appelle Odile Morin, j'ai 55 ans, je suis en situation de handicap moteur et je suis aussi Asperger. Donc, je suis ce qu'on qualifie d'activiste dans le domaine de la défense des droits des personnes en situation de handicap. La question de la prise en compte des personnes en situation de handicap, c'est véritablement une question de discrimination en France. C'est une discrimination, au même titre que les discriminations de genre, que les discriminations de couleur, d'origine, de tout ça. Et ça doit être traité en tant que tel, et ça doit être sévèrement condamné. Et les pouvoirs publics, quand ils ne remplissent pas leurs obligations, ce qui est le cas depuis 44 ans, hein, puisque ça fait 44 ans qu'en France, il y a des lois qui nous promettent l'accessibilité et que ce n'est toujours pas le cas, et que les pouvoirs publics bottent à chaque fois en touche et exonèrent de leurs responsabilités tant que les collectivités, que les gestionnaires de RP, que les petits et les gros, et qu'on ne peut pas mener une vie normale dans cette société.
Tu es à la tête d'une association...
Une petite association, loi 1901, qui effectivement commence à être connue, pas seulement localement, qui est une association qui a été créée en 2001, pour laquelle j'ai créé quand j'ai dû me battre moi-même pour mes propres droits. J'ai mis 10 ans et j'ai dû aller jusqu'en Conseil d'État et utiliser toutes les voies de droit pour faire condamner l'État et faire condamner le département pour le non-respect de mes droits. Ça m'a pris 10 ans, ça a failli mettre en jeu ma vie, hein, parce que s'il n'y avait pas eu ma grand-mère pour m'aider, j'aurais pas tenu le coup. Pendant cette période-là, j'ai aussi aidé d'autres personnes puisque j'avais malheureusement, à l'insu de mon plein gré, acquis des compétences en droit puisque je trouvais personne pour répondre à mes questions sur le droit du handicap. Donc j'ai pendant presque 20 ans aidé des personnes à défendre leurs droits individuellement. Et donc depuis 2014, j'ai décidé de passer à des phases un peu plus radicales et ça a commencé avec des opérations PH gratuits. Donc c'était la première fois qu'on voyait en France des personnes en situation de handicap visible et invisible se mettre à un péage et offrir la gratuité. Vinci à l'époque a tenté de me poursuivre et je les ai vite calmés médiatiquement en me foutant un peu d'eux.
Vous voulez quoi, porter plainte contre toi pour entrave à la circulation?
Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, hein, ils avaient porté plainte contre l'association que je représentais à l'époque, l'APF. Et l'APF voulait transiger, moi j'ai refusé de transiger, j'ai dit non, il est hors de question que ces gens-là nous empêchent de recommencer quand on veut, où on veut, si on veut. 2018. Malheureusement, le gouvernement Macron, après celui de Hollande, nous a attaqué de nouveau sur la question du logement avec la loi Elan, où il s'est mis en tête de diviser par 10 la production de logements neufs accessibles en nous promettant des logements évolutifs qui sont c'est du foutage de gueule, ni plus ni moins. Alors même qu'on manque de logements accessibles, donc on a fait des opérations péage gratuits, on a fait cet été, l'été 2018, on a fait un gros coup médiatique puisqu'on a bloqué le convoi de la 380 d'Airbus dans le Gers. Après on a fait aussi puisque c'était la Fédération française du bâtiment qui avait dicté la loi Elan, enfin l'article 64 de la loi Elan au gouvernement, on s'est aussi attaqué aux entreprises de la Fédération française du bâtiment et puis des travaux publics. Et donc on a bloqué plusieurs cimenties pour empêcher certains chantiers de fonctionner, retarder des travaux et leur coûter un peu de pognon. L'idée c'était ça. Et donc là effectivement les poursuites judiciaires ont commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé à être convoqué au commissariat pour des entraves à la circulation. Il y avait notamment c'était au mois de septembre, on avait bloqué 4 cimenteries d'un coup et 2 centres de gros. Donc ça avait foutu une grosse pagaille au sud de Toulouse. On était moins d'une vingtaine avec nos fauteuils roulants. Voilà. Donc ils m'ont convoqué, j'ai dit que je ne viendrais pas et que, jouant sur le fait que ce pays est inaccessible, y compris une bonne partie des commissariats et notamment leurs cellules de garde à vue, ils n'ont pas de WC accessible et des choses comme ça. J'ai fait savoir au procureur que je ne viendrais pas et que s'il voulait venir, il avait qu'à venir me chercher. À ce moment-là, il y a eu les gilets jaunes. Alors je dois dire qu'au départ, très sincèrement, j'ai pensé que c'était un mouvement poujadiste. En plus, moi, je ne voulais pas opposer le climat et la justice sociale. Donc la revendication de baisse des taxes sur le carburant me posait problème, même si j'avais bien compris les difficultés des gens derrière, mais je pensais qu'il y avait d'autres solutions. Et donc, j'ai pas participé au début, d'autant que je suis très occupé par la question du champ du handicap. Et puis, le 1er décembre, il y avait une manif à laquelle j'ai quand même été, parce que des copains m'avaient dit « bon, mais viens voir ». J'ai été effaré de voir comme les gens avaient été réprimés. Et moi, heureusement ou malheureusement, quand on me rentre dedans, ça me donne encore plus envie d'y aller, parce que je déteste me laisser impressionner, je déteste qu'on cherche à me terroriser. Donc j'avais pas été victime le 1er décembre, je suis retourné le 1er décembre, 8 décembre en m'équipant d'un masque à gaz. Et puis j'ai tenté de négocier avec la police, donc le 8 décembre on a réussi à faire céder la police en se mettant les bras en l'air, enfin pas moi parce que je peux pas les tenir en l'air, mais mes camarades. Et on avait eu affaire à des gendarmes intelligents et républicains, je dirais. Mais après, les choses... On a eu le droit de se faire gazer, donc heureusement que j'avais le masque et je porte un masque et des lunettes tout simplement parce que j'ai des problèmes aux yeux, puis j'ai des problèmes respiratoires et un peu d'asthme. Donc pour moi, ça peut mettre engagé le pronostic vital d'aller manifester. Il est hors de question que je manifeste pas sous prétexte qu'on menace ma vie, quoi. Et puis il y a eu un premier accro le 12 janvier où j'étais tranquille, je tentais de rejoindre des copains au Capitole et d'un seul coup, je me retrouve à l'angle du Capitole et je me prends des grenades lacrymo dans les pattes, alors qu'ils avaient bien vu que, il n'y avait personne qui les menaçait autour de moi. Et je tourne la tête et je me prends le canon à eau. Donc, j'ai pas aimé du tout. Donc, automatiquement, j'ai été me foutre dans le canon à eau et j'ai invectivé les flics en leur demandant qu'est-ce qui leur prenait de tirer sur quelqu'un, qu'est-ce que c'était cette manière. Et voilà, je dis que c'était une méthode de salopard. Et ils étaient interloqués. Je pense qu'ils s'attendaient pas à cette réaction-là. Et puis très vite leur chef a repris les esprits et a dit de me dégager et ils ont réussi à le faire et pourtant je leur avais dit de pas toucher mon fauteuil parce que ça je le dis et je le répète, un fauteuil roulant comme ça coûte énormément cher, en plus on n'est pas dépanné rapidement et puis c'est dangereux de manipuler le joystick et comme c'était très mouillé ils ont réussi à faire glisser le fauteuil, à m'écarter, à chaque fois je suis revenu pour et puis après j'étais crevé, j'ai lâché, j'ai pas porté plainte parce qu'ils m'ont pas blessé ce jour-là. Et puis le 30 mars, on arrive avec deux autres camarades en fauteuil à Arnaud Bernard et on voit que le boulevard est barré par des flics et qu'il y a une foule tout à fait pacifique, tranquille. Et on tente de négocier avec les flics, de nous laisser repartir vers Jaurès. Et là, j'ai demandé à parler à la responsable du dispositif, rien. Les gars refusaient de répondre, impossible de discuter. Et puis à un moment, la guerre a été déclarée, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à nous balancer des grenades lacrymo en grande quantité. La BAC a attaqué par derrière, pas moi, mais mes camarades. Et le canon à eau a été déclenché. Donc ça m'a rendu furibarde, parce que voilà, je déteste être violenté. Et donc j'ai décidé de ne pas bouger, de les bloquer. Et là, la chef a désigné venir en me disant qu'il fallait que je dégage. Et je lui ai dit, désolé, mais quand j'avais demandé à lui parler, il n'était pas venu et que maintenant, je n'allais pas dégager. Et donc, elle m'a menacé de garde à vue. Donc, je lui ai ri au nez en lui disant que, compte tenu de l'accessibilité, voilà, ça allait peut-être être un peu compliqué et que de toute façon, j'étais dans mon bon droit, qu'elle avait qu'à pas me tirer dessus et que de toute façon, je ne bougerais pas. Voilà, je crois que j'ai dû demander des excuses, mais qui ne sont pas venues. Et donc, à ce moment-là, elle a commencé à dire qu'elle allait me dégager et... Je l'ai prévenu de tous les dangers qu'il y avait, hein, contre le fauteuil, contre moi, de me blesser, de me faire tomber, que j'avais le corps très douloureux et que la moindre pression pouvait me faire extrêmement mal. Elle est passée outre. Ces miliciens m'ont attrapé plusieurs fois et la médecine légale a constaté que j'avais une trentaine de bleus sur le corps, hein, dont certains extrêmement importants. Et puis, ils ont tenté de tirer le fauteuil au risque de le péter. Heureusement, ils ne l'ont pas pété. Et puis, il y a un milicien qui, à un moment, a pris le joystick et ne sachant pas maîtriser le fauteuil, m'a envoyé très violemment contre le trottoir. Plusieurs vidéos qui montrent que j'ai été quasi éjecté du fauteuil. C'est un miracle que je ne sois pas tombé et que je ne me sois pas blessé gravement. Parce que j'aurais pu tomber la tête la première, étant donné que j'ai beaucoup de mal à me protéger et que, voilà, que je ne peux pas... ça aurait pu être catastrophique. Je dois dire que même si j'y vais, j'ai toujours la trouille d'aller en manif. Hein, mais voilà, j'ai une mentalité qui fait que même quand j'ai la trouille, j'y vais parce que j'ai pas pour habitude de céder à la peur. Quoi. Donc entre-temps, ils avaient réussi à passer leur foutu camion en haut, donc je les ai poursuivis. Je les ai poursuivis rue Honoré-Serre. Et à ce moment-là, les flics se sont mis tous devant moi pour m'empêcher de passer. Donc je ne suis pas rentré dedans puisque je veux agir de manière non violente. Et j'ai tenté de contourner le dispositif pour les avoir en vitesse, quoi. Mais, puisque mon fauteuil est assez réactif, je pensais un peu les prendre à contre-pied, quoi, comme au tennis ou comme au foot. Et donc je pars, j'accélère, et à ce moment-là, il y a un des miliciens qui a attrapé mon joystick ou l'ensemble et qui l'a écarté. Résultat, mon fauteuil a dévié de direction et au lieu de passer entre le camion en haut et le camion de police, je suis allé m'encastrer dans le camion de police. Au passage, mon cale-pied a fait tomber le policier qui était à ma gauche. Et moi, surtout, le problème, c'est que je me suis retrouvé envoyé brutalement contre le véhicule de police, le pied pris entre mon fauteuil et le véhicule de police. Et là, j'ai hurlé parce que j'ai le pied qui a été retourné complètement. Le flic qui était tombé s'est relevé tout de suite. De toute façon, il était suffisamment carapassonné pour ne pas se faire mal. Et... Là, les flics m'ont laissé tomber. Démerdez-vous. Les streets sont arrivés. On voulait me retirer la botte, je voulais pas trop, mais ils m'ont dit si, il faut tout de suite. Et là, ils l'ont retiré, le pied s'est mis à enfler et ils m'ont mis de la glace dessus. Et à ce moment-là, un flic qui déboule et qui me dit qu'il me place en garde à vue. Donc, je lui ai ri au nez parce que là, quand même, c'était un peu fort de café. Il a fallu une heure quand même pour que les pompiers viennent. Une heure pendant laquelle j'ai réclamé, parce que j'avais eu un doliprane, mais j'avais à ce que je puisse aller à la pharmacie prendre des trucs un peu plus lourds. Et ils ne voulaient pas. Donc à un moment, je me suis tiré carrément. Bon, ils m'ont rattrapé. Donc les pompiers sont arrivés. Et là, quand même, les pompiers ont dit que oui, il fallait répondre à ma demande de me donner un médicament pour la douleur. Parce que j'avais au moins une entorse, quoi. Hein. Et donc là quand même ils ont accepté qu'un copain aille acheter le médicament à la pharmacie proche et que voilà. Et puis après ça faisait une heure et demie au total que j'étais sur le trottoir à attendre une solution, le flic s'est ramené, il m'a dit bon partez, et là j'ai compris que la garde à vue était levée, dont on m'avait d'ailleurs même pas donné le motif, hein. Après j'ai été à l'hôpital. Et à l'hôpital, donc, la toubib m'a fait une radio, m'a dit que c'était une entorse. Et puis au bout de 10 jours, j'en pouvais plus, j'avais trop mal. Retour à l'hôpital et là, scanner. Et là, on a vu qu'il y avait 5 fractures et arrachements osseux sur le pied, sur la cheville. Et donc, plâtre. Et à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus rester chez moi. Donc là aussi, SOS Gilets jaunes. Et heureusement, en quelques heures, j'ai eu la réponse d'un monsieur qui a une maison totalement adaptée. et qui m'a dit, qui m'a accueilli 5 chemins chez lui. Vraiment, voilà, j'ai été à cette occasion-là épaté par la solidarité des Gilets jaunes, et ça je tiens à le souligner. De toute façon, s'il n'y avait pas eu de solidarité des Gilets jaunes, j'allais occuper le commissariat, ils avaient trouvé une solution de gré ou de force. Hein. Parce que ça, me péter le pied alors que j'avais rien fait, je peux vous dire que je l'avais mauvaise.
La rage du peuple, je la vois tous les samedis. On n'a plus un franc, plus de quoi remplir un caddie. Chaque fin de mois, on crève la dalle. Je te parle pas d'appétit. Il suffisait de quelques gilets jaunes pour que petit à petit, on se bouge, on se mobilise. Que la France s'organise, qu'on soit tous dans les rues et puis que l'Élysée balise. On veut pouvoir créer des lois ou bien les contester. Eux nous boycottent dans les médias, nous empêchent de manifester. Ils disent que le mouvement s'essouffle alors qu'on crève tous de faim. Pour comprendre que ça va péter, y a pas besoin d'être devin. On bloque les raffineries, les péages, les flics nous dégagent et je peux te dire qu'ils ont la rage. Ils poussent des cris quand ils nous chargent. Et le samedi au centre-ville, tout ce que je vois ça me régale. Je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés d'un masque à gaz, prendre des boucliers et crier, venez on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigène, des barricades, des flammes. De l'autre côté, je vois que des civils. Des flics, des CRS nous chassent de la ville. Ils veulent pas que ça s'envenime, ils veulent pas que ça se sache. Donc une fois la nuit tombée, ça devient une partie de cache-cache. Ils attendent bien qu'on soit tous regroupés. Enfants en bas âge et personnes âgées, ils en profitent pour tout gazer.
Je l'ai d'autant plus mauvaise que 15 jours après, les flics me rappellent pour me dire vous êtes convoqué au commissariat de Bellefontaine. Je leur demande pourquoi, je reçois... Des convocations écrites sur lesquelles il me parle de violence volontaire sur agent de la force publique par arme par destination. Je tombe un peu des nues. Il parle d'outrage. Alors ça, c'est vrai que je les avais insultés une fois que je m'étais fait taper dessus. C'est sûr que voilà, j'avais jamais insulté. Ils peuvent chercher. Je les ai jamais insultés ou mal parlés tant qu'ils me violentent pas. Mais quand ils me violentent, effectivement, mon langage change. Et je continuerai à avoir un langage qui change parce que voilà, qui commence par respecter la loi et on pourra discuter du reste. Donc ça, il me mettait aussi entrave d'un véhicule de secours. Et au dernier moment, ils me mettent aussi une... Parce que j'ai commencé à me foutre un peu de leur gueule hein, quand j'ai vu les accusations. Et aussi complicité de menaces de mort, d'outrage, etc. Donc mon avocat me dit quand même d'y aller. Bon, on considère que c'était pas la peine qu'il y aille avec moi parce que c'était tellement, n'importe quoi les accusations que voilà, je me sentais capable de me défendre tout seul. J'y vais, j'ai affaire à un commissaire, 3 OPJ, qui m'auditionnent, donc à qui me demandent de raconter la journée. Je leur dis, bah, écoutez, commencez par donner des explications. Et là, ils m'expliquent qu'il y a 2 flics qui ont porté plainte contre moi, qui n'ont pas dit tété. Ouf, parce que voilà, je les ai blessés, paraît-il, mais enfin bon, si en plus ils avaient des traces de blessures, alors là, ça serait encore plus extraterrestre comme phénomène. Et puis, ils me disent qu'il y a 2 témoins des violences. Donc, je leur dis que, bah, écoutez, que je demande une confrontation avec les 4 personnes et qu'à l'issue de la confrontation, je poursuivrai en justice les 4 personnes en question pour diffamation. Donc, ils ne me répondent pas. On passe à autre chose. Sur les outrages, ils me montrent une copie d'un post de Facebook où je parle de ces bâtards de leur race de keufs et que je dis que je parle en l'occurrence de la commissaire et de ses hommes. Et c'est un poste que j'ai fait même pas une heure après qu'ils m'aient pété le pied, voilà. Donc je leur réponds que je peux leur péter le pied s'ils veulent et puis que je vais voir comment ils vont s'exprimer après ça et que je pense qu'ils auront la réponse sur le pourquoi du comment je les ai insultés, voilà. Et le quatrième chef d'inculpation, c'était parce que sur ma page Facebook, j'ai publié au bout de quelques jours la photo de la commissaire Petiot qui est... l'officier de police, la commissaire qui dirigeait la manœuvre et qui donc n'avait pas accepté de discuter avec moi au départ, m'avait fait tirer dessus et en plus avait donné les ordres de me violenter et d'agir contre moi malgré les réserves que j'avais émises. Et donc je voulais tout simplement savoir qui c'était parce que j'aime bien savoir qui sont les gens qui me maltraitent et puis pour porter plainte contre elle précisément aussi. Et puis je voulais aussi lui mettre la honte, c'est-à-dire que je voulais que... tous les gens qui la croisent, parce que je ne savais pas si elle était de Toulouse ou d'ailleurs, voilà, ses proches, sachent ce qu'elle était capable de faire dans le cadre de son travail et parce qu'elle n'a pas respecté son code de déontologie. Et donc j'ai découvert avec la police, ou juste avant, quand ils m'ont envoyé l'info que j'ai été voir sur la page antisociale, que effectivement il y avait 9000 partages et 400 000 vues et je ne sais pas combien de commentaires que j'ai pas pu lire, quoi, que j'ai pas eu le temps de lire. Donc ils m'ont demandé de tout retirer. J'aurais dit non, non, je veux bien retirer tous les commentaires, mais sa gueule à elle, non, je veux continuer à lui faire de la pub. Et donc à la fin de l'entretien, ils m'ont remis deux convocations pour le tribunal de grande instance en correctionnel pour le 16 mai, avec les quatre chefs d'inculpation en question. Et en fait, ça a été reporté au 11 octobre à 14h. Et bizarrement, dans le dossier d'accusation, il ne reste plus que l'accusation pour les complicités de menaces et d'outrages sur, par voie électronique, sur réseaux sociaux. Et voilà, je rappelle aux policiers qui nous écouteraient que ils ont un code de déontologie, qu'il y a des lois dans ce pays, que d'abord ils sont obligés de porter leur matricule, que s'ils ne portent pas leur matricule, ils rentrent à la maison ou ils font un autre métier, et que s'ils veulent violenter les gens, ben, ils font un autre métier, parce qu'un jour ou l'autre, je vais me battre pour que ces gens-là soient jugés. Ceux qui m'ont blessé, ceux qui ont donné les ordres, je veux qu'ils soient jugés. Je veux que ces gens-là soient jugés, parce que ça servira pour tous ceux qui ont violenté et qui n'ont pas osé porter plainte. Parce que je rappelle que des personnes handicapées, il y en a de violentées toutes les semaines depuis le début. Toutes celles qui ont des handicaps invisibles, sur qui on cogne sans relâche.
Dans les placards des gilets jaunes, il n'y a que des pattes. Derrière les barricades, les vitrines de banque éclatent. Ils nous prennent en étau, nous coincent dans des petites rues, escaladent les jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus. Ce qui se passe, c'est fou, je sais pas si tu réalises. Ils tirent sur nous, mais aussi sur les médics et les journalistes. Et moi, je te dis que t'as hurle, c'est pas la tienne, c'est la nôtre. Mais que ta dictature, on n'en veut plus chez les vôtres. Et quand tu te trouves là, planté devant les flics, et que tu les vois matraquer des gens, comment rester pacifique? Et puis, quand t'es en plein milieu de la manif, tu vois les flics se ganter. Des minutes après, tu vois passer des visages ensanglantés. Comment rester calme, pas leur sauter dessus quand ils sont 10 à tabasser une femme et qu'elle n'a pas d'issue? Et j'ai un truc à dire à tous les pacifistes, s'ils le sont encore, c'est qu'ils sont pas vraiment dans les manifs. J'ai vu le gars à côté de moi se prendre un flashball en pleine tête. Tu vois que le sang.
Qu'est-ce que t'en attends de la justice aujourd'hui?
Bah, je sais que la justice, par rapport aux condamnations nombreuses et variées que j'ai vues pour. Beaucoup de gilets jaunes, dont certains que je connais, hein, parce que je ne parlerai pas pour ceux que je ne connais pas. En tout cas, j'ai vu trop de gens victimes de la police, trop de gens aller en garde à vue, ou trop de gens être condamnés pour des faits qui, en d'autres temps, n'auraient pas abouti aux mêmes condamnations, et qui, suivant le milieu social dont ils viennent, auraient abouti à des condamnations différentes. On n'est pas égaux, suivant la manière dont on s'exprime, suivant le bagage culturel, le bagage social qu'on a, on n'est pas égaux. En plus, la justice, elle est sinistrée en France. Hein. Les avocats, pour les personnes les plus pauvres, touchent une AJ qui paye même pas, qui paye pas leurs frais, clairement. Et puis les magistrats expédient, tous ceux qui passent en comparution immédiate. Encore une fois, je vous dis, arrêtez de vous laisser manipuler en garde à vue. Vous partez du principe que vous partez pour 48 heures, vous bouchez les oreilles, vous fermez votre gueule pendant 48 heures, et après vous verrez. Mais arrêtez de vous laisser juger en comparution immédiate en espérant que vous allez sortir plus vite et que ça va aller mieux. C'est une connerie monumentale. Je suis inquiète parce que je sais que la justice veut me faire payer et pas seulement essayer de m'empêcher d'agir pour les violences qu'ils ont exercées à mon égard et pour lesquelles j'ai porté plainte, hein, soyons clairs. J'ai porté plainte auprès du procureur de la République. Je sais qu'ils veulent aussi m'empêcher d'agir et empêcher l'association Handi Social d'agir, et qu'ils veulent pour cela nous dissuader de nous battre. Alors même que la rapporteure spéciale de l'ONU parle de l'application des droits des personnes handicapées en France avec trois termes suivants, hein: ségrégation, privation de liberté et atteinte aux droits humains.
Et du coup, tu parles d'une justice en France qui peine en fait à faire respecter véritablement le droit des personnes en situation de handicap.
Qui ne le respecte pas, très clairement. Hein. Je veux dire, par exemple, les MDPH, il faut savoir qu'elles n'ont pas les moyens de traiter, d'appliquer la loi. Donc là, c'est la règle. La règle, c'est de ne pas respecter la loi.
La voie internationale, c'est une voie que tu verrais plus pertinente.
Je vais utiliser toutes les voies de recours. D'abord, les voies internes, hein, puisque pour saisir les juridictions internationales, il semble qu'il faut d'abord saisir tous les moyens de droit interne, c'est-à-dire en France. Donc j'utiliserai toutes les voies possibles, mais je ne lâcherai pas. Et je me bats avec les gilets jaunes pour qu'un jour, tous ceux qui ont obéi aux ordres bêtement, tous ceux qui, pour préserver leur petite vie, plutôt que d'aller faire un autre boulot, plutôt que de dire à leur chef, maintenant désolé, mais je refuse d'obéir à des ordres illégaux, et ils ont des moyens, des syndicats qui peuvent les protéger. Il n'y a pas que les syndicats Alliance et compagnie qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe, ou les syndicats de fachos, puisqu'il y a un certain nombre de fachos dans la police, mais il n'y a pas que des fachos. Donc moi j'attends que ces gens-là soient jugés un jour, et leurs officiers supérieurs, et les préfets, et le Premier ministre, et le ministre de l'Intérieur, et le Président de la République. Et je vais tout faire pour. Et ce que je sais, c'est qu'en tout cas, les seuls combats qu'on perd, c'est ceux qu'on ne mène pas.
Et j'en profite pour dire à tout le monde de pas lâcher. Ce qu'on a lancé, c'est propagé dans le monde entier. Faut que vous le sachiez, c'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est la révolution. On devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilets jaunes, quel est votre métier?